Progueurs, progueuses, ici vos gars du prog! Bonjour, chers progueurs et progueuses, et bienvenue à ce 63e épisode des gars du prog. Avec moi, mon acolyte de toujours et mon progueur préféré, Karl Mayotte, comment ça va aujourd'hui?
Phil, c'est toi mon progueur préféré, Maudine. Moi, ça va super bien. Vraiment content de venir jaser de prog avec toi, mon vieux.
Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial, crois-le ou non.
On va-tu parler de Alan Oswald?
J'espère vraiment qu'on va réussir à le plugger quelque part aujourd'hui, mais non! Aujourd'hui, on célèbre le 4e anniversaire du balado. Et oui, 4 ans déjà qu'on fait les gars du blog. Donc, merci. Hey, wow. Bien sûr, remercier nos auditeurs. Ceux qui sont là depuis le début, ceux qui nous ont trouvés à mi-chemin, ceux qui nous connaissaient déjà, ceux qui nous ont trouvés d'autres façons. Puis ça nous fascine toujours d'entendre vos histoires. Un gros merci à ceux qui nous écrivent, à ceux qui nous supportent moralement et à même à certains qui nous supportent financièrement. Ceux qui partagent le balado avec leurs amis et juste ceux qui trippent avec nous. Parce qu'on a quand même créé une belle petite communauté de maniaques de ce genre de musique pour les maniaques. Donc, c'est un privilège pour nous de créer cette petite communauté-là, de rassembler toutes ces incroyables personnes. Et bien sûr, le plus grand privilège, ça a été de faire ça avec toi pendant 4 ans, mon Karl.
Ah ben, je vous en souhaite encore un million d'autres, mais j'avais complètement oublié man, le fait que ça faisait 4 ans. C'est quand la date, au juste officiel?
Le tout premier épisode, donc l'épisode 0, qui est un peu un test, là, il est sorti le 9 octobre 2019. Donc,
c'est quoi donc qu'on parlait? On parlait de nos albums préférés. Hein?
Ouais, on avait fait un espèce d'épisode où on disait c'était quoi notre top 5. L'épisode 0 et 1 ne sont plus disponibles en ligne, car c'était pas pour rien que c'était des tests, parce que on avait des problèmes techniques. On apprenait l'art du balado à cette époque-là, donc
ces épisodes-là
sont dans nos coffres-forts, comme Disney qui sort des films de ce coffre-fort parfois. C'est un peu ça la situation avec nous, mais épisode 2 jusqu'à 62 sont tous disponibles en ligne, et donc encore une fois, un gros merci. Et c'est aussi un épisode spécial parce que je crois que c'est le premier qu'on fait depuis que tu as publié Carnaval, est-ce que je me trompe?
Non, mais en fait, il est sorti il n'y a même pas 2 semaines, donc ça fait déjà presque 2 semaines que mon nouveau bébé est sorti après 5-6 ans de travail que j'ai gestionné dans mon ventre, puis que là, j'ai enfin accouché, fait que voilà.
Très imagé, mais...
Ça a fait mal, j'ai pris l'épidurale, mais ça a bien passé.
C'est assez visuel quand même comme histoire, mais ce qu'il faut souligner avec cet album-là, c'est qu'il y a une suite de 20-quelques minutes, donc vraiment, l'esprit prog y est, même si c'est un album vraiment de jazz, il y a un peu de musique du monde aussi là-dedans, quand même, l'esprit prog s'y retrouve.
Ben, je pense que ça transparaît dans tous mes albums. Premièrement, moi j'aime ça les pièces qui s'enchaînent une après l'autre et qui se fondent un peu. C'est quelque chose qui est beaucoup présent dans le rock progressif, puis que j'attends de remettre dans ma musique. Puis c'est drôle parce que j'ai fait une entrevue il n'y a pas longtemps avec un média de Trois-Rivières, bref, qui est l'hebdo, si je ne me trompe pas. Et puis elle me demandait, tu sais, qu'est-ce que tu amènes à la musique brésilienne? Ben, parenthèse, l'album Carnaval, c'est un hommage que j'ai fait à la musique brésilienne, mais la journaliste me demandait, qu'est-ce que tu penses amener de plus à la musique brésilienne? Et puis une des choses que je disais, c'est justement, tu sais, c'est tout mon passé de fan de rock progressif. Puis la manière de construire les albums, qui je pense qui est assez unique face à la musique brésilienne en général.
C'est intéressant. J'aime ça, les gens qui font des ponts comme ça entre les genres. C'est une des meilleures façons de faire quelque chose d'unique au final aussi. C'est de mélanger les influences. Puis comme tu dis, je suis pas sûr que la musique brésilienne, les bossa nova, ces trucs-là sont vraiment inspiré par Genesis puis Gentle Giant, mais c'est quand on réussit à faire ce pont-là qu'on entend des trucs qu'on n'a jamais entendus.
Ben, je pense qu'il y a quand même
des artistes d'avoir tenté.
Ben, merci. Ben, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'artistes des années 70 brésiliens qui ont écouté les gros bands de rock progressif. Là. Clairement, c'est sûr. T'sais. Mais premièrement, je ne serais jamais brésilien. Fait, je ne pourrais jamais prétendre faire de la musique brésilienne comme un Brésilien pourrait le faire, parce que je ne suis pas né là-bas, j'ai pas tout ce bagage culturel-là. Mais c'est le plaisir, surtout, je pense, dans le prog puis dans le jazz fusion, c'est comment les gens peuvent des fois se réapproprier un vocabulaire ou certaines épices de musicales de partout dans le monde, puis d'en faire quelque chose de, c'est ça, de nouveau.
Ben, c'est la musique du monde, moi j'ai toujours vu ça un peu aussi comme, tu sais, c'est fait par quelqu'un d'autre, comme on parlait de Peter Gabriel qui a fait de la musique du monde, ça. Je pense que c'est plus comme s'inspirer d'une autre couleur pour l'apporter à sa propre, à son propre canevas, tu sais. C'est s'inspirer de certaines teintes pour faire sa propre œuvre, tu sais. Puis c'est ça qu'on entend, tu sais, c'est de la musique, c'est clairement ta musique, on reconnaît certains motifs, on reconnaît le style, mais là, il y a cette couleur-là qui était allée chercher dans un autre pot de peinture, celui du Brésil, pour ta toile, tu sais, je sais pas, c'est comme ça que je le vois un peu. Et est-ce que tu sais c'est quelle ma chanson préférée? Je pense que j'en ai une préférée, là. Après plusieurs écoutes, là, je pense que j'en ai une que je préfère.
Est-ce que, j'essaie de deviner, ok, est-ce que ça serait la toune allégorique?
Oui! Wow! Bravo, Carl! Comment tu sais ça?
Ah, je me suis dit, mais c'est quand même une des plus proches. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé après. Fait que je me suis dit, pour moi, Phil, il aime cette tune-là aussi.
Elle est vraiment intense. Je trouve que c'est celle qui me jette le plus à terre là, dans l'album. Mais j'aime beaucoup, beaucoup l'album, définitivement. Donc, j'invite les gens qui sont curieux, qui n'ont pas encore écouté. Tu es disponible sur les plateformes de streaming, comme Spotify, etc., Apple Music, tout ça. Mais t'es aussi en tournée là, pour cet album-là. Moi, je vais te voir dans quoi, 2 semaines?
Oui.
Donc, carlmayotte.com?
Oui, ben ou sinon sur Bandcamp, si vous voulez aller acheter des albums physiques, peut-être qu'il y en a parmi vous qui aimeraient encore avoir un CD. Peut-être un jour des vinyles, qui sait, mais pour l'instant, j'ai juste des CD. Il y a sur Bandcamp aussi. Mais oui, en effet, on va tourner partout au Québec. On va même aller... avant d'aller en Ontario, on s'en va dans les Maritimes. Après ça, on va aller dans l'Ouest. On va aller partout au Québec, partout au Canada, puis possiblement en France, mais j'en dis pas plus. Mais oui.
Voilà. Mais on a des fans en France, d'ailleurs. Donc, si vous avez l'opportunité d'aller voir Carl en personne, c'est lui, Lapince, dites que vous écoutez les gars du prog. Je pense que ça lui fait plaisir quand des gens parlent de ça aussi. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'album? Oui, donc ça vaut la peine de le prendre physique. Parce que j'ai regardé ton livret, il est vraiment cool. Tu racontes l'histoire de l'album, t'as une section sur la genèse de l'album, il y a des photos de tes incroyables musiciens, bien entendu, puis ça donne du contexte à tout ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de le prendre physique.
Moi, personnellement, la pochette, c'est un coup de cœur personnel, dans le sens que c'est quelque chose que je suis vraiment fier, puis dans le fond, pour vous mettre en contexte, c'est un peu un jeu de « Où est Charlie? » avec le thème du carnaval. Il y a plein de chars allégoriques, puis tous les musiciens qui ont joué sur l'album et musiciennes se trouve en petit bonhomme de style Louis Charlie. Il faut les trouver. Que...
Moi, je t'ai trouvé en tout cas. J'ai trouvé le reste de ton band.
Ben, il y a comme une légende à l'intérieur de l'album, avec un peu comme, encore une fois, un Louis Charlie, où il faut trouver tel objet ou telle personne.
C'est une bonne idée, puis c'est vraiment une belle couverture. Donc, encore une fois, bravo. Mais là, il faut parler d'une autre légende. Steven Wilson.
Mais quand même, je pense, tu sais, je veux dire, c'est l'icône prog des. On va dire la plus dominante, si je peux dire ça, mettons, des 20 dernières années. C'est clairement quelqu'un, des fois, qui n'a pas tout le temps fait l'unanimité, mais je pense de dire que c'est comme un des musiciens les plus accomplis dans ce style-là. Ça fait pas mal l'unanimité en général. Et il a sorti un nouvel album. Ouais.
Ben, c'est ça, puis je suis d'accord que c'est comme un j'ai que depuis l'époque, Spock's Beard, Dream Theater, après ça. C'est lui, tu sais. Morse, là, de
Neil Morse.
Spock's Beard, pour moi, c'est comme lui, un peu l'icône des années 90 du prog, mais quand on parle 2000, c'est Steven Wilson, puis il est encore très actif, il fait beaucoup de musique. C'est le deuxième album de lui qu'on critique. Je pense que c'est un des seuls musiciens slash band qu'on a fait deux critiques d'album depuis le début du balado. On essaie d'être varié dans les trucs. T'as raison. Et qu'on a fait deux critiques d'album aussi. Absolument. On a fait Virus, je crois, puis Fauna. Donc, ouais, exactement. Donc voilà. Puis on a déjà parlé d'une histoire avec ce groupe-là, puis ce musicien-là. Donc, on va peut-être aller plus vite passer par-dessus ce bout-là de l'épisode où on parle de notre background avec un band, puis qu'on a déjà parlé. Probablement à deux reprises même, parce qu'on a parlé de Porky Pantry aussi. Donc moi, je veux t'entendre sur l'album. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, j'ai tellement hâte de t'entendre là-dessus, parce que le dernier album de Future Bites, en tout cas, t'avais laissé assez froid. Puis Mais en fait, pour être honnête, j'ai peur que cet album-là, à part peut-être une ou deux tunes, t'aies laissé froid, mais j'en dirais pas plus. Moi, j'ai adoré l'album. J'avais quand même aimé The Future Bites, mais j'ai encore plus aimé celui-là. Puis je me souviens, la première pièce que j'ai entendue, c'est Impossible Tightrope. Qui m'avait...
Ouais, c'est pas mal. On l'avait toute la première qu'on a entendue, parce que c'était le premier single.
Je pense qu'avant ça, il n'y avait pas eu Economy of Scale. Mais je pense qu'il
y a eu
Economies of Scale, mais elle m'avait passé un peu sous le radar. Puis moi, j'avais capoté. J'étais comme, ça y est, c'est le retour au gros prog de Steven Wilson. T'es écœurant, cette pièce-là. Ouais. Puis, à mon sens, ça reste encore la meilleure de l'album. Là, aucun doute. La chose que j'ai le plus aimé de l'album, je pense, c'est les ambiances. C'est un album assez ambiant au final, tu sais. Il y a des fois il y a des textures vraiment capotées. Moi, je trouve la première pièce de l'album, Inclination, il y a comme une sorte de trompette un peu fucky. Il y a comme des pads un peu weird. Le mix est vraiment intéressant. En fait, je pense que l'album, comme je disais, en général, c'est assez planant, à part, mettons, des pièces comme Impossible Tightrope et quelques-unes autres. Mais en général, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé les tunes plus pop comme Rock Bottom. En fait, j'adore toutes ces collaborations avec Ninette Taïeb, la pièce Paria, sur Tout de Bonde. Pour moi, ça reste une de mes pièces préférées de Steven Wilson. Je l'écoute très régulièrement. À part de ça, ben, les clips de l'album sont vraiment cool. Il y a vraiment toute une esthétique visuelle qui est sortie à presque chacune des pièces. Mais sinon, c'est pas son meilleur album. Je dirais, c'est pas son pire, c'est pas son moins bon. C'est un très bon album, mais je sais pas si ça va être un album qui va marquer le temps. Je pense que c'est un retour un peu au prog pour Steven Wilson. Mais on n'est pas dans un gros album prog, là, t'es comme on pourrait se l'entendre. C'est quand même un long album aussi. On pense souvent de longueur, t'es 1h04 et 2 secondes. C'est quand même un long album. Mais en général, moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé les sons, j'ai bien aimé le mood. Je trouve que c'est un album qui s'écoute bien dans plusieurs situations. C'est pas juste un album qu'on peut écouter en se concentrant. Justement, le fait que ce soit un album assez ambiant permet des fois qu'on peut se laisser évader. Fait que, ouais. Voici ma critique rapide. Et toi, Phil, qu'est-ce que t'en as pensé?
Qu'est-ce que j'ai pensé de cet album-là? Qu'est-ce que tu penses que j'ai pensé de cet album-là?
Moi, je pense que t'as pas aimé ça. Mais c'est ma... j'écoutais ça, j'étais comme, est-ce que Phil va aimer ça? En fait, à chaque fois qu'on fait une critique, je me dis, qu'est-ce qu'il va en penser, Phil? Je pense que Phil va avoir aimé peut-être une ou deux chansons. Mais le reste, je suis pas sûr.
La meilleure façon que je peux décrire cet album-là...
Hey, ça commence mal, ça. Ça commence mal.
Puis j'en ai déjà parlé avec quelqu'un. La meilleure façon que je peux le comparer, c'est un comptoir en stainless. C'est beau. C'est travaillé. C'est parfait. Mais c'est froid. C'est austère.
Non, je suis d'accord avec toi.
Je respecte beaucoup la production, cet album-là. Mm. Et je respecte aussi ce qu'il a tenté de faire.
Ouais.
Mais je trouve que c'est un album qui a des défauts qui nuisent beaucoup à, je pense, l'expérience d'écoute totale. Moi, j'aime plus tu dises une chanson ou deux que tu as aimé, mais je vais te dire quelque chose, car j'ai beaucoup aimé les 4 premières chansons. Je trouve que le début de l'album est très fort. J'ai beaucoup aimé Inclination.
Incroyable.
Je trouve qu'elle crée une ambiance vraiment unique. J'ai beaucoup aimé la batterie un peu électrique, un peu bizarre, comme toi, les trompettes, on dirait en dessous de l'eau, là, je sais pas comment est-ce que je veux dire. J'ai aimé sa performance vocale là-dessus aussi. J'aimais beaucoup l'ambiance qu'il avait mis. Et là, on passe sur What Life Brings, que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est une de ses chansons plus pop, comme il fait parfois. Je trouve que c'en est une qui a très bien fait. Mais là, quand on tombe sur de l'acoustique, quelque chose de beaucoup plus jovial, j'ai trouvé que c'était peut-être pas une bonne direction d'album là-dessus. Mmh. Même si j'aime beaucoup ces deux chansons-là, je trouve qu'une après l'autre, c'est bizarre. Et là, on retombe dans l'ambiance de la première chanson avec Economies of Scale, que j'avais pas du tout aimé.
Ouais, je me souviens, tu m'avais
dit. Quand j'avais écouté le single. Non, j'avais pas aimé, j'avais écouté le single, mais je trouve que dans l'album, quand elle apprend en sandwich entre Inclination et Impossible Tightrope, je trouve qu'elle a prend un nouveau sens. Alors là, on a une bonne position d'album. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que j'aurais préféré que la What Life Brings soit ailleurs dans l'album. Bon, c'est pas une grosse critique. Impossible Tightrope, bien sûr, qui est une chanson, comme on a dit, très progressive, très rock, qui sonne pas du tout comme le reste de l'album, encore une fois.
Mais pour vrai, moi, donc, c'est ce qui m'a surpris quand même. Je pensais qu'il y aurait eu plus de cette saveur-là dans l'album, puis je veux pas dire que j'étais déçu, mais je me dis, hey, ça aurait peut-être été le fun s'il y avait eu plus de cette affaire-là. T'sais, mais ça, c'est comme le fan de prog qui parle.
Ouais. Ben moi, j'étais déçu, je vais le dire. Là, j'aurais aimé ça comme un plus, sans que ce soit juste ça. Ça n'avait pas besoin, mais c'est parce que cette chanson-là est tellement différente du reste de l'album qu'à partir de ce moment-là dans l'album, je commençais à me dire, OK, cet album-là, c'est moins un concept, c'est plus, je pense, des expérimentations, des idées qu'il y a eu, des concepts, ouais. Des couleurs qu'il veut tenter. Puis ouais. Pour moi, après Impossible Tightrope, l'album prend une chute en termes de qualité. Pour à peu près tout le reste de l'album, sauf The Harmony Codex, que j'ai pas du tout aimé la première fois que j'ai écouté.
Mm.
Mais j'ai écouté cet album-là plusieurs fois. Là.
Moi aussi.
Je vais pas compter. Là. Mais Harmony Codex, c'est probablement la chanson qui m'a le plus... Plus je l'écoutais, plus je l'aimais. Mais il faut vraiment la voir comme une chanson presque de drone. Ouais, tu sais, qu'il y a un motif planant, qui se répète, ouais. Qui se répète comme ça. Par contre, le payoff, souvent les chansons de drone, tu sais, la fin, il y a un gros payoff, tout ça. Je trouve, tu sais, il y a une finalité qui vaut. Dans une chanson de drone ou répétitif, on va bien souvent construire quelque chose, tu sais. Ouais. Alors que là, j'ai peut-être moins eu cette impression-là. Ça me rappelait un peu une des chansons sur. Mon Dieu, j'ai un blanc, l'album après The Raven That Refused to Sing.
And Cannot Erase.
And Cannot Erase. Ouais, il y avait une chanson aussi avec une femme qui parlait comme ça, puis c'était très beau. Ça me rappelait un peu ce. Cette idée de l'utilisation de la voix, chose que toi-même t'as expérimenté avec dans ton premier album, l'utilisation d'une voix féminine comme instrument, comme qui parle, tout ça. Donc, c'est une chanson que j'ai trouvée intéressante, mais qui, peut-être, la conclusion était un peu décevante. J'aurais aimé ça qu'il y ait peut-être une fin plus épique à cette chanson-là. J'ai vraiment détesté Actual Brutal Facts. J'ai pas réussi à la finir souvent, cette chanson-là.
Wow.
J'ai trouvé insupportable. Staircase, je la trouve vraiment ennuyante. J'ai pas vraiment d'intérêt pour cette chanson-là non plus. Beautiful Scarecrow non plus. Puis Time is Running Out, je me souviens plus comment elle sonne, pour te dire. Puis, ben pour moi, la plus grosse déception de l'album, c'est Rock Bottom.
Pour vrai, moi, j'ai full aimé ça, là.
Ben, je trouve que c'est. C'est parce que moi, quand je pense à Ninette Taïeb, je pense tout le temps à Routine, qui est peut-être ma chanson préférée de Steven Wilson en carrière.
Wow.
C'est définitivement dans mon top 5.
C'est sur Infinity Race,
absolument. Donc, elle livre une performance absolument époustouflante de cette chanson-là qui m'a marqué à vie. Puis là, l'utiliser pour une chanson pop qui a peu d'envergure, elle livre une belle performance quand même. Hein, elle a des grandes envolées, tout ça, c'est super beau. Mais je trouve que côté composition, c'est une chanson qui est pas super intéressante. Donc, pour moi, c'est un peu... Un peu décevant de l'avoir participé pour cette chanson-là. Donc, voilà ma critique, en gros, c'est ça. Puis, tu sais, en tout et partout, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mauvais album. Je pense que c'est un album qui est ambitieux, mais il y a une touche, c'est quoi ce que je reproche à Steven Wilson de plus en plus. Plus, je pense que t'aimeras pas ça, ce que je veux dire, là, Carl, mais je trouve qu'il y a une touche d'arrogance dans cet album-là. Puis je vais expliquer pourquoi. J'ai l'impression des fois que le fait qu'ils utilisent des loops puis des trucs électroniques tout ça, ils pensent que ça donne l'impression de waouh, tu sais, ils utilisent la musique électronique pour faire du prog, quel génie. Mais moi, ça donnait plus l'impression de j'ai acheté mon premier soundboard puis j'essaye des trucs, tu comprends?
Ouais, non, je comprends très bien. Ouais, non, y avait un côté, tu trouvais-tu un peu plus amateur dans ses choix de son électronique ou ça?
Peut-être, je trouve que c'était... Des fois, je me dis, est-ce que c'est un choix de créer un son plus ambiant ou de créer une ambiance plus minimaliste? Tu utilises des trucs électroniques qui sont un peu disjonctés, un peu déconnectés du reste? Ou c'est juste parce qu'il est un peu nouveau à ces instruments-là, puis il utilise peut-être pas de façon aussi optimale qu'un... DJ, ben comme un musée de musique électronique, house ou
ben, vraiment moi, je pense
ambiant, le frais.
J'allais dire, je pense qu'il y a quand même sa personnalité là-dedans, puis je pense que il est assez conscient de ce qu'est-ce qu'il voulait. T'sais, peut-être l'arrogance, c'est que des fois, je pense que Steven Wilson a des opinions très tranchées qui peuvent paraître des fois arrogantes. Moi, je pense que je respecte amplement ça, mais c'est peut-être ça des fois aussi, après ça, qui arrive avec un album, puis comme qu'est-ce que les gens attendent, les attentes peuvent être assez élevées parce qu'il y a des opinions assez tranchées. T'sais. Fait que. Peut-être, ouais. Peut-être des fois qu'il est plus arrogant, je dirais.
Ben, tu sais, mais moi, mes attentes étaient basses parce que j'avais tellement pas aimé Future Bite. Tu sais, j'ai jamais réécouté depuis qu'on l'a critiqué. J'ai jamais eu l'appel de réécouter cet album-là. Mais je peux dire qu'Harmony Collect, c'est mieux. Je pense qu'il est plus ambitieux. Je pense qu'il est plus intéressant. Je pense qu'il y a plus de recherche, peut-être aussi. Mais non, tu sais, on donne pas de score dans, vraiment ou rarement. Là, mais je dirais que. C'est quand même un bon album. Puis je respecte beaucoup, encore une fois, la production, la qualité. J'imagine qu'avec des bons écouteurs, si j'écoutais cet album-là dans le noir avec des bons écouteurs, peut-être que je vivrais autre chose qu'en conduisant, en cuisinant, en travaillant. Ouais. Peut-être que je l'ai écouté de la bonne façon. Je sais pas. On aimerait vraiment ça vous entendre. Moi, c'est un album que j'aimerais vraiment, vraiment avoir du feedback de la communauté, savoir ce que vous en avez pensé. Mais vraiment, les quatre premières pièces, plus je les écoute, plus je les aime, mais malheureusement, le reste de l'album, moins intéressant. Sans dire que c'est terrible, il y a peut-être Actual Brutal Facts, vraiment, que je pense pas que je vais jamais réécouter de ma vie, mais à part ça, tu sais, c'est pas terrible. Enfin,
mais c'est ça ma critique. Dirais-tu que c'est, t'es comme depuis ces trois derniers albums, mettons, depuis To The Bone, dirais-tu que c'est ton album
j'ai jamais écouté Steven Wilson? To The Bone, j'ai jamais écouté.
Ah hey man, faut que t'écoutes la tune Paria, man. Sérieux, c'est le build-up de la fin, là, le crescendo, là, moi, c'est une des pièces là, qui m'amène les larmes aux yeux. Puis je comprends toujours pas comment il a fait pour faire une spatialisation comme ça. D'ailleurs, ça m'amène au point, je trouve que la spatialisation de l'album est incroyable. T'es, comme tu dis, d'écouter ça en écouteur ou dans un bon système de son, la qualité de l'album est fou. Là. L'inclination, là, ça me fout la chair de poule. Là.
Ouais, non, c'est ultra produit. Puis tu sais, c'est un maître. De studio puis de l'utilisation de la technologie pour l'enregistrement, tu sais, tellement que des fois je me demande s'il devrait pas se focusser là-dessus quasiment rendu là, c'est devenir un producteur, tu sais, plutôt qu'un compositeur, je sais pas, tu sais.
Ah non, ben, c'est quand même un sacré compositeur, là, je veux dire ça. Je pense que c'est juste qu'il est en recherche clairement, tu sais, je veux dire, puis clairement que je pense qu'on voit qu'il commence à se distancer un peu plus du côté pop, il y a encore du côté pop, mais on voit que c'est un petit peu moins pop que les autres d'avant. Fait que peut-être qu'on parle d'un retour vers quelque chose de plus ambiant, plus proche du rock progressif. Donc,
ben, tu sais, comme on dit tout le temps, le rock progressif, c'est pas nécessairement un son, c'est une mentalité, c'est une recherche, tout ça. Puis, d'une certaine façon, inclination, c'est prog, ne serait-ce que parce que la structure de la chanson est tellement étrange, puis les instruments, l'instrumentalisation, puis c'est une chanson vraiment originale, tu sais. C'est ça que je veux dire aussi par. Progressif. C'est pas, Impossible to Outro, c'est du textbook, là, c'est du prog pur et dur. Là.
Mais quelque chose d'original.
Oui, mais il y a des éléments de prog dans d'autres chansons aussi, je pense. Mais enfin. Est-ce que tu le recommanderais à des gens qui n'ont pas aimé Future Bite?
Moi, je dirais à l'écouter Impossible to Outro, puis après ça, aller écouter l'album.
S'ils aiment le vieux Steven Wilson puis le prog en général, c'est sûr qu'ils vont aimer Impossible to Outro, je crois.
Je pense que oui aussi.
Mais moi, j'invite vraiment les gens à. Si vous l'écoutez, écoutez-le dans l'ordre pour que vous puissiez vivre cette transition-là, inclination, economies of scale, impossible tightrope. Je trouve que ça fait vraiment une suite intéressante. Enfin, on aimerait ça vous entendre. Les gars du prog commercial gmail.com, écrivez-nous.
À 100%. Mais puis la pochette, ben moi, j'ai pas grand-chose à dire sur. Il y a il essaie d'avoir un concept là, de puzzle. Là, mais ben, tu sais, je voulais pas faire cette façon là, mais dans le sens, je trouve ça correct. J'ai pas, c'est pas quelque chose que j'ai fait oh wow, genre, tu sais, fait que
ouais, c'est comme une tour, on dirait, qui est comme dans la boucane. Puis il y a cet élément là qui joue une espèce de bloc de Tetris un peu là.
Mais c'est surprenant comme nom, Harmony Codex, d'ailleurs. S'il n'y a pas nécessairement de trucs super harmoniques, tu sais, comme des grosses harmonies, je serais curieux de savoir son le sens derrière ça. T'es.
Ouais, je sais pas trop non plus c'est quoi le concept derrière l'album. J'ai de la misère à le capter. Je suis pas trop sûr ce qu'il voulait Mais l'élément du cover minimaliste, comme il a fait l'album passé, je pense que c'est aussi associé avec sa nouvelle quête de musique pop ultra épurée. Tontoir en Stein, là.
Mais je comprends l'image, je veux dire. Je pense que c'était voulu, mais c'est un son plus froid, un peu, en effet, du côté électronique. T'es.
Mm-hmm. Est-ce qu'on serait rendu peut-être à notre top 5?
On serait certainement rendu à notre top 5, Ben. Que j'ai hâte. Hâte, c'était quand même une belle recherche à faire pour vrai. Là.
Vraiment, c'est le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce top 5-là.
Moi aussi, puis tu sais, je veux dire, c'était comme de repasser des fois à des tunes, des albums, tu sais, de bands pop. En fait, notre top 5, cher public, c'est un top 5 de tunes prog faites par des bands non prog. Puis ça me rappelle vraiment que les années 70, ça montre à quel point le prog est important parce qu'il y a beaucoup d'artistes pop qui ont fait des tunes longues avec des affaires sinueuses. Fait que j'avais bien aimé ça, retourner là-dedans.
Mais comment t'as fait pour choisir? Parce qu'on s'était pas vraiment consulté pour savoir comment on allait décider ce qui était un groupe qui, pas de prog. Comment t'as décidé ça, toi?
Groupe qui s'identifie pas nécessairement à ça, tu sais, qui est pas. Je me dis aussi, si quelqu'un. Tu sais, c'est rare que les gens pensent à ce band-là et disent que c'est un band de prog. Tu sais, puis je me suis dit, une tune prog, pour moi, c'est une tune des fois, peut-être. Il y a plusieurs critères. Ça peut être long, ça peut être qu'il y a plusieurs sections. Puis qu'il y a vraiment un côté de recherche, sûrement que les gens, t'sais, que ce soit avec des sons de synthétiseurs, de guitare, mais sûrement que les gens, ils ont écouté du prog puis ont voulu faire une tune dans ce style-là. Là, fait que...
C'est bon. Moi, de mon bord, j'ai. Pour qu'un groupe qualifie comme étant non-prog, j'allais voir sur Prog Archive. Puis s'il n'était pas sur Prog Archive, où. Qu'il était dans la catégorie prog related, ça comptait. Donc c'est ça mon puis le tag rock progressif ne devait pas apparaître sur Wikipédia. Donc je sais pas, écoute, je me souviens pas si j'ai tout vérifié les cinq groupes, mais je crois que oui. Donc c'est dans cette erreur le fun. Donc merci à François de l'idée qui nous a proposé.
Très bonne idée.
Si vous avez des top 5, les top 5 que vous voulez qu'on fasse, là, écrivez-nous, les gars du prog commercial gmail.com. Ça serait vraiment cool d'avoir vos idées. Nous, on a encore quelques-unes, bien sûr. On est à 63, mais on n'a pas encore fini d'avoir des idées. Peut-être qu'on va même refaire des top 5, soit volontairement ou par accident, je ne sais pas trop. Qu'on l'a déjà fait, malheureusement. Mais vos idées sont vraiment toujours les bienvenues. Donc, Carl, tu veux-tu commencer?
Je me lance, mon vieux. Alors, mon numéro 5, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Mais je suis allé avec Black Sabbath, War Pigs.
Ouais, ben écoute, j'ai pas pensé à ça, mais je pense que t'as raison.
Ben, moi, je considère ça quand même comme une tune prog, parce qu'il y a un côté blues, mais tu sais, il y a des bandes de prog qui ont mis des côtés blues, mais tu sais, toute l'intro, la fin, il y a plusieurs sections, ça brasse, tu sais. Moi, j'ai toujours considéré cette tune-là comme une tune assez prog, mais il y a d'autres tunes aussi dans Paranoid qui s'apparentent à ça, mais t'sais, c'est vraiment une tune rock avec des sections, comme je disais tantôt, construites, il y a de la virtuosité, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que moi, j'adore tellement cette chanson. J'adore War Pigs.
Ben oui, moi aussi.
War Pigs, Lose the Wall, ça.
Lose the Wall, je sais pas.
Non, c'est quoi le nom de la chanson? Ah, excusez-moi, j'allais chercher vite, mais c'est War Pigs. Le Black Sabbath, il est comme.
Elle a un autre nom, cette chanson-là?
Il est comme un double nom, si je me souviens bien. Hein? Je me trompe peut-être.
Je vois.
Ok, je me suis trompé. Excusez-moi, je me suis trompé de chanson. Non, c'est vraiment
Warpig. Chose qui arrive.
Mais oui, j'aime beaucoup cette chanson-là.
C'est une de mes chansons préférées de tous les temps. J'ai même pas pensé, faut le croire. Mais ton top 5 me rappelle qu'il y a une autre affaire que j'ai pas compté, c'est des medleys. Parce que, par exemple, la deuxième face de Abbey Road, tu sais, les medley des chansons, là, She Came In Through The Window, Jam Masters, puis
pas tant prog, je dirais pas que c'est prog, parce que c'est juste un ramassis de chansons pop ensemble, tu sais, c'est ça, tu sais.
Ouais, mais le concept, enfin, ça fait vu que c'est pas... Puis même une chanson qui est un medley, je l'ai pas accepté non plus, c'est pas le Black Sabbath, parce que c'était il y avait une chanson ou deux que j'avais considéré. C'est la dernière du premier album, qui est A Bit of Finger, Sleeping Village Warning. C'est comme plein de chansons qui sont comme emmagasinées en une. Et je ne les ai pas comptées parce que je pense que c'était des chansons différentes qui ont juste été collées dans l'album. Je suis pas sûr. Enfin. Mais War Pig, c'est vrai, excellent choix. Puis il y a plein de sections. C'est une chanson qui va dans tous les sens, qui est plus longue aussi. C'est au moins 7 minutes, je pense.
Oui, alors c'est donc, wow, facile.
Excellent choix, Carl. Vraiment, c'est un très très bon choix. Je sais pas si on va avoir des crossovers. Moi, j'en ai une que je pense que oui.
Peut-être. Hey, moi, moi aussi, je pense qu'il y en a une. En tout cas, je t'écoute.
Peut-être deux. Enfin, mon numéro 5, je suis sûr à 100% que tu l'as pas dans ton top 5.
Ok.
Parce que c'est une toune de punk.
Ouh!
Est-ce que tu sais de quoi je parle?
C'est
une toune absurde à quel point c'est prog dans un groupe qui est absolument pas prog.
Suc de Clash?
Je pense que c'est... Non. Je pense que c'est la chanson de mon top 5 qui est le plus... Ce qu'ils font normalement versus prog, la plus éloignée. C'est une toune de 1999. Je t'en lance une bonne, hein?
Oh mon Dieu, est-ce que tu Rancid?
Non, mais c'est la chanson de Decline du groupe NoFX.
Wow!
Okay, tu connais cette chanson-là, Carl?
Non, du tout.
C'est une chanson de 18 minutes de skate punk. c'est complètement capoté, cette chanson-là. C'est okay. Mon frère Louis, qu'on salue. Je sais pas s'il écoute le balado, mais qui m'a montré cette chanson-là il y a longtemps, puis qui savait que j'aime le prog. Il dit, tu crois jamais à ça, mais NoFX ont déjà fait une toune de 18 minutes. C'est complètement capoté, cette toune, car c'est genre, il y a tellement de sections, il y a un... comme à 10 minutes dans la toune, il y a des trompettes qui débarquent. C'est capoté. Moi, cette chanson-là, ça me fascine. Je crois que le prog punk, c'est un genre qui existe.
C'est comme un peu...
vraiment le meilleur groupe de... Ben, c'est un peu opposé, mais je crois que le genre existe. Puis le groupe fort de cette mouvance-là, à mon avis, c'est Grimmskunk. On va peut-être la question d'en parler un jour. C'est un groupe que j'aime profondément. C'est du prog punk, à mon avis, mais The Decline, c'est du prog punk. Puis c'est une chanson incroyable. Pour le top 5, quand je pensais à mes affaires, j'ai comme fait une liste d'une dizaine de chansons, peut-être, tu sais. Puis celle-là, mais je l'ai pas écouté depuis vraiment longtemps, puis je l'ai réécouté, puis c'est excellent. Vraiment, là, si vous n'aimez pas ce groupe-là, si vous les connaissez pas, si vous avez, j'aime pas le punk, tout ça, allez écouter ça, c'est quelque chose. De 18 minutes, c'est vraiment une chanson, là, c'est pas un medley, c'est une chanson. Allez voir ça. Fait que mon numéro 5, c'est The Decline du groupe NoFX.
Ça me rappelle que j'ai pas considéré, mais... Les artistes, surtout Donna Summer, mais des artistes disco des années 70, des fois, ils sortaient, mettons, une version single de 3 minutes, une version album de 5 minutes, puis il y avait tout le temps une version de 17 minutes de leur tune avec des gros arrangements de cordes, tu sais, pour que tu mets le CD puis ça danse pendant longtemps, fait qu'ils réinventaient la pièce pendant 17 minutes, tu sais, fait que j'aurais pu considérer ça aussi.
C'est vrai, Donna Summer avec Giorgio Moroder.
Ben, man. Giorgio Moroder, tu sais, je veux dire, il y avait quand même une touche de prog dans son affaire, là. En tout cas.
C'est de l'électroprog. C'est ça, il y a aucun.
Moi, je pense que oui. Tu sais, je veux dire, t'écoutes son film dans Midnight Express. Là, c'est tellement bon. C'est que de ça, là. Oh. Hey, ça m'amène à mon numéro 4 film.
Un jour, on fera un épisode spécial sur lui.
Ah, oui. Ah, j'adorerais ça, man. Parce que surtout la pièce de Daft Punk, Giorgio for Moroder. Man. J'adore cette. Ou c'est Moroder. Je m'en souviens plus le nom de la chanson, là, mais c'est la 3.
Je pense que c'est Giorgio by Moroder.
Exact, t'as raison. Et c'est excellent avec l'entrevue avant. Là. J'adore son accent. Hey, ça m'amène à mon numéro 4, Phil, qui je pense va être notre crossover. C'est la tune Space Oddity de David Bowie. Je considère ça prog, moi.
Ok, intéressant.
Je considère ça prog parce que c'est une pièce, mettons, dans les 5 minutes, mais t'es avec plusieurs sections. Il y a une histoire. Comme un refrain, mais en même temps, il y a d'autres sections. Il y a comme un bout planant à la fin avec des sons fuckés qui auraient pu être dans une tune de Pink Floyd. Puis tu sais, moi personnellement, je trouve que c'est une de ses plus belles chansons. Là. C'est magnifique. T'sais. Ça parle d'espace aussi, un sujet assez prog. Puis, ben, c'est ça. Quelle chanson, là. T'sais, moi, j'aime beaucoup le genre de pause sur refrain. Là. Here in the far from the world. Cette bout-là me donne toujours des frissons. Donc, pour cette raison, je l'ai mis en numéro 4. Space Oddity, David Bowie.
Intéressant, intéressant. C'est une chanson à laquelle je n'avais pas pensé. Donc non, elle n'est pas dans mon top 5. Mais c'est ça qui est dur avec ces top 5-là, c'est que on peut pas penser à tout. T'sais.
Mais dirais-tu que c'est du prog?
Justement, je trouve ça le fun.
Ben, hein?
Je comprends l'aspect Pink Floyd. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être.
Mais il y a clairement l'influence du prog, je pense.
Tu vois, j'aurais dit c'est comme du space rock, mais puis du psychédélique, mais le space rock, certains disent que c'est un sous-genre de rock progressif, donc oui.
Ouais, enfin, je comprends.
C'est pas un mauvais choix. Moi, je le disqualifie pas.
Parfait. T'as envie.
Non, mais c'est vraiment que c'est classique des classiques, cette chanson-là. Est-ce qu'elle a trop joué? Peut-être. Est-ce que ça reste une belle chanson? Sans aucun doute. Puis moi aussi, je pense que l'espèce de post-refrain, comme tu dis, c'est il y a quelque chose de très touchant dans ça. Je sais pas pourquoi, c'est aussi ouais. Touchant. Il a vraiment réussi à créer l'image d'une personne seule, on dirait, sur une base spatiale. Je sais pas, c'est vraiment...
Ah non, je comprends.
C'est très imagé, donc peut-être que ça en fait quelque chose de proche, en effet. Qui sait? Mon numéro 4, moi, je pense que ça va être ça, notre crossover. Puis moi, je m'attends à ce que ce soit ton numéro 1, même. Je pense que ça va être ton numéro 1. C'est 1983, A Mermaid I Should Turn to Be de Jimi Hendrix.
Hey man, j'ai complètement oublié cette chanson-là. J'en viens pas que j'ai pas pensé. J'en viens pas que j'avais pas pensé à ça parce que ça serait mon numéro 1 ou 2 le facile. Oh man.
Ben, je trouve que c'est la beauté aussi d'un top 5 comme ça. Un top 5 qui est vraiment comme ouvert comme ça. Je trouve ça beau parce que ça nous force. C'est comme. Qu'est-ce qui nous vient en tête, tu sais? Fait qu'il y a des trucs, tu sais, War Pigs, c'est sûr que je l'aurais mis dans mon top 5, moi aussi, j'ai pas pensé. Fait que, tu sais, on pourrait refaire ce top 5-là dans 4 ans, ce serait sûrement complètement différent, tu sais.
À 100%, man.
Cette chanson-là, souvent, les gens disent, ah, c'est quoi le proto-prog, bon... souvent, j'ai pas vraiment de réponse à cette question-là, mais pour moi, les deux... trucs les plus proto-prog, c'est Magical Mystery Tour, l'album, puis cette chanson-là.
Moi, j'ai A Day in the Life.
Maybe I Should Turn to Be.
J'ai A Day in the Life des
proto-prog aussi. T'as raison. Très proto-prog aussi. Mais c'est vraiment des moments à clé pour moi dans le développement de l'idéologie, puis du phénomène prog. Puis avant King Crimson, tout ça, il y a aussi des éléments de jazz à ça. Bon, on sait tout ça, mais du côté plus rock. Du terme rock progressif, je pense que c'est une des chansons vraiment essentielles de ça. Puis on en a parlé tellement souvent, je sais pas ce que je peux rajouter, mais vraiment chanson épique, un des grands, un de ses meilleurs riffs, je pense. Ouais. Longue chanson, encore une fois, on est sur la longueur avec cette chanson-là, je sais plus, 13, 12 minutes, je sais plus combien de temps elle dure. Puis grosse passe de instrumentale, mystérieuse, expérimentale dans la chanson. C'est même une chanson qui est vraiment unique, même dans l'album lui-même. Tu sais,
100%.
De par son son. On a l'impression que c'est pour ça que j'aime autant cette chanson-là, que c'est vraiment comme vraiment un musicien qui va ailleurs, tu sais, qui essaie comme de pas faire ce qu'il fait tout le temps, puis d'expérimenter tout ça, puis c'est un peu ça le progressif aussi, tu sais. Fait que cette chanson-là, c'est un peu comme un des moments du début de cette idéologie-là de « Hey, je fais quelque chose qui a comme jamais été fait, puis j'essaie de quoi que j'ai jamais fait, puis j'essaie juste de repousser mon band, puis mon ensemble, puis mon son le plus loin que je peux, puis le plus comme expérimental ou tout. » Fait que pour moi, c'est définitivement une chanson de prog, puis c'est excellent, puis c'est... Peut-être ma chanson préférée d'Hendrix, je sais pas, mais voilà, mon numéro 4, c'est 1983, Mermaid I Should Turn to Be.
Ouais, man, cette tune-là, elle m'a toujours fasciné pour la sonorité. Puis quand j'étais jeune, pour moi, j'étais comme, j'écoutais cette pièce-là, puis elle me rendait un peu triste. J'avais l'impression que c'est comme la déchéance des années 60. Genre, j'ai l'impression que c'est comme la fin des années 60, puis un peu la déchéance d'un hippie qui se réveille, fait comme, ok, le monde, finalement, c'était pas ce que je pensais, tu sais. Je sais pas de quoi qu'il parle vraiment dans la chanson. T'es 1983. Une sirène. Je viens d'une sirène. Parles-tu du livre 1984? Je sais pas. T'es. Mais, oh man, j'en reviens pas, j'avais pas. En fait, je pense, je prenais ma douche l'autre jour, puis je me suis dit, il faut que je me rappelle, je pense, cette chanson-là, puis je pense j'ai complètement oublié. Mais, waouh, mais non, c'est quelle belle chanson. Aussi, il y a un bout de verre, attends, le trois quarts, Manny, c'est juste comme, ça remonte, puis il y a des petits riffs de guitare, là, puis la guitare, comme une guitare clean, souvent pluggée, drette dans son ampli avec aucun effet, puis oh, que ça sonne bien, ou même peut-être même dans la console, là, c'est. Oh. Ouais, ouais, ouais. Puis la voix de Jimi Hendrix, un peu, là, c'est comme tellement mollo. Là. J'ai jamais pris de drogue dans ma vie, mais je me doute que ça devait être un méchant bon trip, en tout cas. Mais, ouais, ça, encore aujourd'hui, je pense Electric Ladyland reste un de mes albums préférés de tous les temps. D'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai écouté, je suis dû.
Tu penseras au fait que cette chanson-là n'est pas dans ton top 5 la prochaine fois que tu l'écoutes.
C'est moi pas des affaires comme ça, je m'en veux. Hey, ça m'amène à mon numéro 3 qui va être un choix assez surprenant. Je vais me faire lancer des couteaux. Je vais me faire lancer des couteaux.
Lancer des couteaux, ouais, c'est ça. Tu vas te faire lancer des Alan Ellsworth.
Je vais me faire lancer, c'est ça. C'est une chanson d'Alan Ellsworth. Non. C'est une tune du groupe Heart. Une pièce qui s'appelle okay. Crazy on You.
Ok.
Pourquoi c'est prog, tu vas
me dire? J'aurais dit peut-être Magic Man.
Au début, c'est ça, mais l'affaire, c'est qu'il y a un solo de site en plus dans Magic Man. J'ai pensé, mais ouais. C'est qu'au début de Crazy on You, c'est la tune, c'est cette tune-là qui a une intro de guitare acoustique.
Ben oui, super iconique, magnifique.
Légendaire. Puis pour ça, je considère ça comme du prog. Puis je pense qu'il y a un petit côté prog dans Heart. Avec Magic Man aussi, les solos de synth, ces aspects-là. Puis, tu sais, clairement, après ça, c'est une grosse tune de rock. Mais pour moi, cette sorte d'intro de guitare-là me rappelait Runabout, les côtés de Steve Howe. Puis, j'aime juste vraiment cette chanson-là. Puis, j'ai vu Ann Wilson cet été. Puis, ça a été un super show. C'était le fun de l'avoir. Je me compte chanceux. Fait que je l'ai mis dans mon top 5 pour ça. Puis, même numéro 3, parce que j'aime tellement cette chanson-là. Elle me met vraiment dedans.
Ah, c'est tellement un riff iconique. Je pense que c'est une des intros de guitare acoustique les plus reconnaissables, les plus
oui,
célèbres. Puis juste les meilleures, une des meilleures aussi, mais oui. Écoute, je pense qu'on a jamais parlé de Heart sur les Au gars du prog. Je connais pas le groupe tant que ça, mais j'ai toujours eu une place très très spéciale dans mon cœur pour Crazy on You puis Magic Man. J'adore cette chanson-là. Vraiment. Même Barracuda, bien entendu aussi.
Ça reste, il y a coupe de tunes, c'est quoi non? Il y a une couple de ballades des années 80 là, qui sont légendaires aussi. Là. En tout cas, quel bon band.
Leur premier album. Sur deux premiers albums, c'est... ouais.
Mais Dreamboat Annie qui est comme le premier, là, c'est cœur, hein, ça.
Un classique, un des grands groupes de rock des années 70. Je sais pas si je considérais que cette chanson c'est du prog. Personnellement, moi, elle aurait pas qualifié, mais. C'est ton top 5. Je respecte ça en masse.
Ben, merci. Ben, tu sais, pour vrai, moi, c'est comme je te dis, je vais me faire lancer des couteaux, mais... mais je voulais la mettre parce que je considère que c'est un bel exemple de comment le prog a pu influencer les bands rock et pop de cette époque-là. Fait que, comment c'était comme un peu obligatoire d'avoir la recherche musicale dans son affaire. T'sais.
Ouais, fallait aller plus loin que. Ben, je pense que c'est comme une réponse peut-être aussi au pop yéyé, un peu niaiseux des années 60. Peut-être. Rien contre le pop des années 60, par exemple. J'adore, mais peut-être une réponse à ça. En tout cas, mon numéro 3, ben là, c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai une chanson de David Bowie, mais c'est pas, c'est pas la même. La mienne.
Station to Station.
Ben oui, c'est Station to Station.
Je te voyais l'écouter tantôt sur Discord. Ça m'a dû le gâcher.
Ben écoute, je l'ai réécouté parce que je voulais me rappeler de ça prenait combien de temps avant qu'il chante. tu m'as appelé. Mais c'est long. Je pense que ça prend comme 2-3 minutes avec un mot qui soit dit dans cette chanson de 10 minutes-là. Mais oui, Station to Station, c'est ça. C'est une chanson qui est longue. Puis j'ai pensé mettre une chanson de l'eau, peut-être.
Ouais. Parce que c'est l'album qui est prog, c'est pas tant les pièces. T'es.
Exactement, car c'est ça, c'est surtout la deuxième partie qui est très très prog. Mm-hmm. Je trouve que Station to Station, c'est vraiment une chanson importante dans sa carrière, parce que c'est comme le... On parlait de pont tantôt entre les genres. Mais ça, c'est un pont entre son époque R&B, funk, soul, puis son époque krautrock, expérimental qui vient avec Low et Heroes. Donc cette chanson-là est un peu un mélange de ces deux styles-là. Puis il y a beaucoup de sonorités intéressantes là-dessus. Les claviers, la guitare. Il y a beaucoup de répétitions, mais il y a beaucoup de sous-sections aussi. Puis pour moi, il n'y a aucune chanson dans sa discographie qui sonne comme ça. C'est aussi éclaté. Ben, peut-être Black Star, là. Mais Black Star aussi, ça aurait pu, presque toutes les chansons de cet album-là auraient pu compter dans notre top 5. Mais c'est un jeune qui change complètement comme aux deux tiers de la chanson pour rechanger une troisième fois complètement vers la fin. C'est vraiment une chanson capotée, puis c'est la définition du prog, c'est une aventure. On part à quelque part, le début de la chanson. Il y a un point milieu qui est complètement ailleurs. On a un autre point complètement ailleurs. Puis tout ça se passe très très bien. C'est très fluide. Il y a une recherche de son, il y a une recherche d'expérimentation. Apparemment que c'est surtout la cocaïne qui aurait financé cette chanson-là. Apparemment qu'il ne se souvient pas d'avoir écrit et composé cet album-là. Qui est surprenant quand même. C'est un de mes préférés, sans aucun doute. Notamment pour sa place dans la discographie. Bon, je ne répéterai pas ce que je viens de dire, mais... Non, pour moi, c'est vraiment sa chanson la plus prog. Non, et faut pas dormir dans le piège de la durée. Là. C'est pas juste ça, mais la durée a amené cette espèce de fluidité de tous les styles puis de toutes les parties. Donc, ça fait partie de l'équation, malgré tout. Ça dure plus 10-11 minutes, la chanson. J'ai pas le temps devant moi. Là. Mais voilà, donc mon numéro 3, c'est Station to Station de David Bowie.
Wow, ben, en fait, c'est sur cet album-là hein, qu'il y a aussi Golden Years puis tout ça.
Golden Years, c'est la deuxième chanson sur l'album.
C'est ça. Ouais. C'est justement que j'allais dire. Donc, je me souviens que j'avais vu une entrevue de lui qui parlait de Golden Years, puis il disait à quel point, genre, comme tu dis, il se souvenait zéro d'avoir fait ça. Il était juste trop pété. Je sais pas comment la cocaïne peut affecter autant le cerveau, là, mais il a dû en prendre en tabarnache. Man.
Ouais. Je sais pas non plus. J'ai jamais consommé de ça. Moi non, je suis interdit, ça va l'air de le. Ça l'a gardé très très réveillé. Apparemment, c'est ça que ça fait. Donc,
J'imagine. Voilà. Je ne pas. Fait que, en tout cas, bref.
C'est quoi ton numéro 2?
Excellente chanson, man. Moi, mon numéro 2, c'est une chanson de Paul McCartney à The Wings, man.
Ben oui.
C'est Ben on the Run. Man.
Je l'ai considéré.
Moi, je considère ça comme du prog. Il y a juste tellement de sections, genre, puis tellement de trucs, tu sais, puis des bouts de guitare acoustique, puis pour moi, c'est une des meilleures chansons de Paul McCartney, puis c'est une de mes chansons préférées au monde. Genre, quand ça parle, ça me fait voyager, puis on dirait que j'oublie tous mes soucis. Fait que je me suis dit, en fait, dès qu'on a parlé de ça, de faire un top 5 de bandes d'artistes pop qui fait des tunes prog, j'ai tout de suite pensé à cette chanson-là. Donc. J'ai pas pu m'empêcher de la mettre. Surtout en numéro 2, parce que je l'aime tellement.
Je l'ai considéré, mais je sais pas pourquoi j'ai décidé de pas la mettre. Peut-être parce que c'était un band qui faisait... Non, c'était pas un band qui faisait du prog. Je sais pas, mais excellente chanson. Vraiment, j'avais pensé moi aussi, mais peut-être que... Je sais pas. Mais non, c'est un 10 sur 10. Elle est parfaite, cette chanson-là. Il n'y a aucun reproche qu'on peut lui donner. Absolument aucune. Oh, voilà. Un choix.
Ben, même l'album en général facile. Est incroyable.
Ben oui, absolument. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, vraiment. Excellent choix. Mais je peux parler de mon numéro 2 si tu veux.
Ben, j'adorerais ça.
C'est peut-être ton numéro 1, je sais pas. Mais... Un incident à Bois des Filions, Carl.
Eh, je l'ai pas mis, man.
Hein? Écoute, un incident à Bois des Filions de Beau Dommage. Une chanson de 20 minutes à la fin de Où est passée la noce. Puis ça, c'est une de mes prises les plus chaudes dans la musique. Je pense que c'est la meilleure des deux albums, les deux premiers.
Wow.
J'aime profondément Où est passée la noce. Mm-hmm. Peut-être, mais le blues de la métropole quand même. Mais à part ça, ouais. Enfin, j'aime profondément cet album-là. Et surtout cette chanson-là, qui est, je crois, tu parlais tantôt de c'est dans les années 70, c'est-à-dire que les bands fallait tous qu'ils fassent une tonne de prog ou fallait tous qu'ils fassent une tonne plus longue ou qu'ils s'inspirent. Pour moi, ça c'est comme l'ultime preuve de ça. T'sais, c'est un groupe qui faisait pas vraiment le premier album, il n'y a rien de prog là-dedans, à mon avis. C'est pas un album de prog du tout.
Ouais.
La majorité de cet album-là non plus. Il y a une chanson instrumentale qui est assez intéressante, dont j'ai oublié le nom, qui est sur Oui, Porcelanas. Et il y a cette œuvre-là qui est, pour moi, une des plus belles chansons du répertoire québécois. Il y a des riffs à la Yes là-dedans, il y a des passages absolument folk, délicats, une utilisation géniale du duo avec Michel Desrosiers, bien entendu, une voix cristalline qui nous offre la voix de la... Puis il y a l'histoire derrière ça, tu sais, j'ai toujours juste me touché, tu sais, le gars qui a perdu sa conjointe, s'est noyé dans la rivière des Mille-Îles, puis là, il est triste de ça, il se rappelle de l'incident, puis là, sa conjointe lui parle, puis elle lui dit que quand il va faire des châteaux de sable, c'est avec l'eau de... Elle est devenue la rivière, puis il va pouvoir utiliser l'eau pour construire des chansons. Je sais pas, je trouve ça très touchant, l'histoire de cette chanson-là. Je trouve que c'est bien réalisé, puis c'est toute qu'une aventure, tu sais. T'as la part, puis t'as le riff de guitare qui embarque, puis tu dis, OK, là, je suis en business. Là, je m'en vais, je m'enligne pour un solide 20 minutes de pure extase musicale, puis je me tanne pas, cette chanson-là, je l'ai écoutée je sais pas combien de centaines de fois, je ne m'en tanne pas. Donc, c'était vraiment proche d'être mes numéro 1. Ça se passe, c'était une chaude lutte. Mais pour aujourd'hui, c'est mon numéro 2. Donc, un instant, beau défilé, de beau dommage.
Ouais, wow, ben, en fait, je me doutais qu'elle allait être dans ton top 5. Moi, cette pièce-là, c'est, je l'ai écoutée, mais pas assez écoutée, je pense. J'oublie souvent de l'écouter, cette pièce-là. Même, je dirais que j'ai failli mettre... Mon numéro 6, c'était Black Sun, de Claude Léveillé, t'es l'album. Mais, tu sais, je veux dire, c'est une magnifique pièce, tu sais. Mais, c'est pas nécessairement... C'est vrai que c'est rare que je pense à cette pièce-là, t'sais. Peut-être, falloir que j'y redonne plus de temps d'écoute, tu me fais penser.
Faudrait qu'on se fasse une bonne écoute active de Où est passé la noce, un de ces quatre.
J'adorerais ça. Mais moi, ça m'amène à mon numéro 1, Phil.
Ah, oui, je suis curieux, mais là, je veux toutes mes. Ceux que je pensais être numéro 1, c'est pas tes numéro 1, fait que je sais pas c'est quoi, là.
Moi, je sais c'est quoi ton numéro 1, mais je vais le dire après. Mais je me doute. C'est la pièce Siberian Breaks du groupe MGMT, qui est. Qui est. En fait, on a déjà écouté cet album-là. Congratulations, je sais pas si tu t'en souviens, on a écouté ça dans mon sol. Bref, c'est une pièce de genre 12 minutes qui est une. Qui est un voyage, en fait, dans l'histoire de la musique populaire. Ça commence avec une influence des Beatles à un moment donné. Après ça, un côté plus folk indie avec une affaire pop. C'est une tune prog incroyable. Moi, c'est une de mes tunes. En fait, je suis un fan de MGMT. Je trouve qu'il avait ramené un côté psychédélique vraiment intéressant à la musique pop en 2009. Puis c'est drôle, cet album-là. Il y avait un album avant qui avait fait comme plus d'électro-pop, mais original. Puis j'avais ma coach d'impro qui m'avait parlé de l'album Congratulations. Elle m'a dit « Ah, j'aime moins ça. On dirait genre qu'ils sont allés ailleurs, puis j'aime pas ça. » Moi, je l'ai écouté, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, OK, c'est un de mes albums préférés que j'avais entendu dans ma vie à ce moment-là. » Ça m'avait fait capoter. Toute l'influence des années 60, puis tu sais, je veux dire, pour vrai, il y a des affaires vraiment prog là-dedans, dont particulièrement la tune Siberian Breaks.
Pour moi, cet album-là, c'est comme un... On a une couple d'albums comme ça, toi pis moi, qui sont comme... On finit toujours par en parler un peu parce qu'ils nous ont marqué dans notre adolescence.
Ah ouais.
Ou notre vie de jeune adulte. Puis moi, c'en est un comme ça que j'associe à toi. Genre ça, pis Jurassic Shift, tu vois. Ça, c'est les...
ça, c'est les... On en a tous déjà parlé à ce podcast-là.
Avec raison de parler.
Non, mais faire une critique.
On en a parlé. Critique. Ah, je sais pas, mais c'est un de ceux-là qu'on mentionne, que tu mentionnes allègrement. Puis c'est bien correct. Je te taquine, mais j'en ai moi aussi des comme ça. J'en ai aussi des comme ça que je ne cesse de parler. On va faire un jour un top 5 que nos auditeurs nous envoient, des top 5 d'albums qui sont plus capables d'entendre parler.
Ou en fait, faudrait faire chacun un top 5. Moi, je fais un top 5 de tes clichés, genre que tu dis tout le temps au podcast qui me font rire, puis vice-versa.
Ah, c'est bon ça. Hey, faudrait que j'y pense à ça. Faudrait que je réfléchisse à ça. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On pourrait. Ça vous. Je serais prêt à le faire. Ça pourrait être un bon épisode spécial. T'es-tu prêt pour numéro 1?
Ben, je peux. Moi, selon moi, ça va être Candle in the Wind, Funeral for a Friend, man.
Ben, tu l'as presque eu, mais c'est pas ça le nom de la chanson. C'est Funeral for a Friend. Love Bleeds in My Hand. J'ai oublié le nom de la deuxième partie de la chanson. Mais Candle of the Wind, c'est.
D'autres chansons.
C'est la chanson après. Ouais, c'est ça.
C'est ça, je me trompe.
Oui, t'as raison, absolument.
Je me doutais qu'elle allait être là parce que c'est une sacrée bonne chanson prog là, de Elton John. Là.
C'est Love Lies Bleeding, c'est ça le long de la deuxième partie. Mais écoute, je l'ai réécouté quelques fois pour le top 5. Moi, quand on m'a offert ce top 5-là, un instant à Bois des Filions puis Funeral for a Friend, c'est comme.
C'était clair.
Immédiatement, j'ai pensé à ces deux chansons-là. C'était sûr qu'elle allait être dedans. Puis je l'ai réécouté. Moi, je pense que cette chanson est absolument incroyable. C'est du pur génie. Tous les instruments ont un moment dans cette chanson-là. Même la basse, qui n'est pas un instrument, qu'Elton John en a la... on se dit, c'est un band de bass. Là. Mais dans cette chanson-là, il utilise la bass. Il y a un accord de guitare qui est tellement intense, je sais pas si tu sais de quoi je parle, là, qui est utilisé à répétition dans l'album et qui a beaucoup d'effets dessus, beaucoup de distorsions, c'est très très dissonant. À chaque fois que je l'entends, j'ai des frissons. Puis la construction de cette pièce-là, la transition de Funeral for a Friend à Love Lies Bleeding, qui est comme... C'est vraiment deux chansons, mais ça, c'est tellement bien agencé, puis la transition est tellement exceptionnelle que c'est vraiment une chanson.
Oh, ouais.
C'est vraiment une chanson prog. C'est vraiment une chanson de rock progressif. L'utilisation des claviers aussi. Il utilise des synths là-dessus, que je pense qu'il utilise dans aucune autre chanson de sa carrière.
100%.
Je sais pas c'est quoi l'histoire derrière cette chanson-là, mais pour moi, c'est de loin sa meilleure chanson. Ce que le monde me demande, c'est ma chanson préférée d'Elton John. Aucun doute que c'est Funeral for a Friend. Sa chanson la plus sous-estimée, c'est Grace Hill. Ça, je veux toujours le dire.
Ben, j'allais dire, c'est ma préférée de l'album Grace Hill.
Ah, c'est tellement bon, cette chanson-là. Ça n'a pas de bon sens. Mais tu connais mon amour de cet album-là. C'est vraiment un album que j'adore profondément. Je sais que toi, un peu moins.
Mais c'est le premier CD album que j'adore. T'sais. Puis après ça, c'est juste, je trouve, des fois, c'est un peu un album un peu long. C'est un album double, mais t'sais, c'est mon avis.
Ouais, c'est sûr que. Je pense que c'est les comme trois dernières chansons qu'à chaque fois je me dis, il aurait pu ne pas être là, ces trois-là. C'est vrai. Mais il y a tellement de bonnes chansons. En tout cas, on n'embarque pas sur une critique de cet album-là. Tout pour dire que si vous avez jamais entendu Funeral for a Friend, puis ce que vous pensez d'Elton John, c'est Your Song, puis Saturday Night's Alright, puis des Tiny Dancer. Tiny Dancer qui est un peu proche quand même aussi, il faut dire, je pense. Mais préparez-vous. Parce que c'est vraiment autre chose. Il n'y a rien dans sa discographie qui sonne comme ça. Si vous êtes fan de prog, vous allez l'aimer, je vous le garantis. Donc, mon numéro 1, Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding, d'Elton John.
Ben, man, c'est une incroyable chanson. Je dirais cette chanson-là avec, justement, avec Grace Hill, pas mal. Ah, ben, Yellow, Goodbye, Yellow Brick Road. En fait, tout le début de l'album est juste tellement incroyable.
Benny and the Jets, Candle of the Wind.
Benny and the Jets.
Final Movie 2, Sweet Painted Lady,
Saturday Night.
C'est tellement de bonnes chansons là-dessus.
Ouais, ouais, vraiment. Ben, c'est juste plein d'autres. Quel grand compositeur d'ailleurs, t'es prolifique. Mais waouh, ben, je comprends.
Absolument.
Tout à fait. Ben.
Et avant de passer à qu'est-ce qui nous attend dans le prochain épisode, on veut remercier. Un merci tout spécial à notre nouveau producteur. On a un nouveau producteur.
Que Simon Parenteau.
Un immense merci. Simon Parenteau, donc un gros merci. Puis on veut souligner la sortie de son nouvel album. Premier album, je crois, en tout cas, pour son groupe. Donc l'album s'appelle In the World of Crimus. Je ne sais pas si je le prononce bien. De l'album Tales from the Sky. Donc, allez écouter ça.
J'ai même eu la chance de jouer sur une chanson de cet album-là.
Ben oui, tu joues sur la dernière, c'est ça?
Exact, exact.
Donc, vous allez voir, je l'ai écouté. Il se passe beaucoup de choses dans cet album-là, puis il y a beaucoup de genres. Puis comme j'avais souligné à Simon, il y a même des passages. N'ayez pas peur, là. Moi, je suis pas un fan de ce genre-là nécessairement, mais il y a comme des bouts qui font quasiment comme metalcore, tu sais. Mais des prog. Je trouvais ça super créatif de jumeler des genres comme ça. Fait qu'allez écouter ça. In the World of Crimus, je sais pas comment prononcer ça, mais notre nouveau producteur, un gros, gros merci à Simon. Sinon, si vous voulez nous supporter, il y a deux façons vraiment simples de le faire. La première, c'est de partager le balado avec vos amis mélomanes, bien entendu. Et si vous voulez faire un petit peu plus, on a toujours notre Patreon qui est en ligne, patreon.com/lesgarsdupro. Vous pouvez voir ça dans la description de l'épisode. On travaille toujours sur trouver d'autres façons de financer le balado. Quand les mots sont en discussion là-dessus, quand on va avoir des nouvelles, on va vous en faire part. Mais ouais, merci là-dessus, ils ont pris le temps de répondre au sondage. Ça nous aide à savoir où on s'aligne avec ça un peu.
J'allais dire, on a même des petits projets spéciaux peut-être qui s'en viennent. On n'en dit pas plus,
mais d'ici le prochain épisode, vous devriez le savoir. Et puis, pour le prochain épisode, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On avait parti ça, il y a une dizaine d'épisodes de ça, des guides d'écoute. Donc, on vous a demandé ce que vous en pensiez. Certains nous ont écrit ou ont laissé des commentaires sur YouTube ou ont mentionné dans le sondage là, qui avaient aimé ça, le guide d'écoute de Gentle Giant. Donc, Carl Lemon s'est dit, quel autre artiste de prog a la réputation d'être difficile d'approche autre que Gentle Giant? On s'est dit, ben, Frank Zappa, c'est pas mal l'un des plus difficiles d'approche parce qu'il y a une discographie, c'est tellement immense. Mais des craintes, les gars du prog sont là. Bien sûr, ce ne sera pas un guide d'écoute de l'entièreté de sa discographie parce que c'est juste pas vraiment réaliste de faire ça. Mais on va faire un guide d'écoute de ce qu'on croit être les essentiels qui représentent les mieux les différents mouvements de sa discographie. Donc, vous allez voir, je pense que ça va être cool. Puis on s'est fait un petit spécial, ça va être l'épisode 64. Et Carl et moi, on est des gros, gros fans. On a grandi avec la Nintendo 64. Donc, on va faire un tout petit top 5 bonus à la fin de nos top 5 de nos chansons préférées de Nintendo 64. Donc, c'est ça. Écoutez, si vous arrêtez l'épisode après Frank Zappa, c'est correct, on comprend. Mais on se fait plaisir. Ça fait 4 ans.
Exact.
Donc, voilà. Mais le plus important, c'est le mot de la fin. Puis ça, Carl, je te le laisse.
Ben, Colin, juste dire, on avait déjà parlé de musique de jeux vidéo, donc vous êtes déjà préparé, cher auditeur. Mais le mot de la fin.
C'est vrai.
Vive le prog.